C'est une intense journée de votation qui nous attend le 27 septembre prochain. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, les Suisses font leur retour aux urnes. Au menu, 5 objets fédéraux, mais aussi plusieurs votations dans les communes, avec un thème particulièrement sensible à Sonvilliers, Olivier Zano.
Oui, les citoyens de la commune se prononceront sur le projet éolien des 4 bornes, on le rappelle très rapidement. L'idée est d'implanter 10 turbines, 7 sur le territoire de Sonvilliers, 3 sur le territoire de Val-de-Ruz, dans le canton de Neuchâtel. C'est sur le plan de quartier que les habitants de Sonvilliers voteront le 27 septembre. Et entre opposants et partisans, le débat est nourri, parfois émotionnel. C'est le cas d'ailleurs pour bon nombre de projets éoliens en Suisse, où les intérêts des uns ne rejoignent pas toujours ceux des autres. Pour en débattre avec nous ce matin, nous accueillons Marc Jeanméret, ancien maire de Sonvilliers, président de l'association Oui à l'énergie éolienne. Bonjour.
Bonjour.
Face à vous, Didier Cuche, ancien champion de ski, mais surtout dans le cas présent, membre de l'association Sauver les Chelettes, qui s'oppose à la construction du parc éolien. Bonjour.
Bonjour.
Didier Cuche, vous êtes riverain direct du projet. Votre maison se situe à quelques centaines de mètres du site retenu. Concrètement et à titre personnel, qu'est-ce que vous craignez?
Alors, il y a principalement le bruit. Une éolienne produit 106 décibels. Il faut savoir que la limite pour les concerts de rock, par exemple, est fixée à 110. Il y aura 10 éoliennes, donc c'est vite fait, le calcul est vite fait. Les projections d'ombre, dans le dépôt du plan et du projet, il y a 0 minute qui ont été calculées, alors qu'il y a des centaines de maisons qui vont être impactées directement par les projections d'ombre. À savoir que chez moi, on a fait un montage avec des points GPS précis par rapport aux éoliennes. Et j'aurai de 1h de l'après-midi à 5h du soir pratiquement des projections d'ombre en continu dans les 3-4 mois d'hiver où le soleil est très bas.
Marc Jeanméret, ces inquiétudes, vous les attendez?
Alors, tout à fait. Je dois d'abord dire en préambule que ce projet est exemplaire, il est extraordinaire par rapport au Swiss Made, hein, donc à la manufacture Swiss Made. Les impacts, ils ne sont surtout pas négligés dans le projet et par le projet. Toute transformation de source énergétique, qu'elle soit fossile ou renouvelable, il y a des impacts. Mais là, je mettrais vraiment en avant le grand travail des ingénieurs qui a été fait pour trouver des solutions par rapport au bruit, notamment avec des peignes au niveau des pales. Par rapport aux projections stroboscopiques, il y a des arrêts qui sont quand même programmés. On a maîtrisé tout ce qui était projection de glace. Et puis, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, notamment dans les améliorations continues de ce genre de transformateur. Je rappelle aussi que l'éolienne la plus proche d'une habitation a été enlevée du projet et que finalement, aujourd'hui, on a un parc à Mont-Soleil et puis on n'a pas dénombré de nombreux incidents de ce genre.
Alors Didier Cuche, ces dédommagements annoncés, ces efforts qui ont été fournis, est-ce que pour vous, vous y croyez?
Je rebondis juste. L'éolienne la plus proche, c'est pas vrai. Moi, la deuxième, elle est 50 mètres plus proche que celle d'avant. Et dans les études par rapport aux projections d'ombre, dans l'étude, 0 minute a été calculée par les promoteurs du projet.
Marc Jeanméret, par rapport à cette annonce?
C'est deux positionnements qui sont différents. Moi, je maintiens ma position. Ça a été étudié. Donc voilà, ça fait partie du projet. Et le projet, il va continuer de s'améliorer. Il faut surtout voir que c'est un projet itératif. Hein. Donc, on sait aujourd'hui vers où on est. Demain, on va profiter de tout ce qui est amélioration par rapport à ces éoliennes. Quoi.
Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à Sonvilliers, en novembre 2015, hein, avec une participation qui frôlait 50%, 75% des votants soutenaient des études sur la production d'énergie éolienne aux 4 bornes. Alors, on est 5 ans plus tard. Pour vous, Didier Cuche, qu'est-ce qui a changé pendant ces 5 ans?
Eh ben, les projets ont avancé, mais vis-à-vis de cette acceptation de la population, la population, c'est une chose, les riverains, c'est peut-être une autre. On parle toujours de 75% d'acceptation. Ça, c'est un vote consultatif qui a été fait au moment où on a décidé d'éventuellement lancer un projet. Et une grande partie de ces gens n'ont pas d'impact, n'en sont pas impactés directement puisqu'ils n'habitent pas en tant que riverains. Si vous feriez le même questionnement autour des riverains, on arriverait de loin pas à ces 75%.
Ce vote consultatif, Marc Jeanméret, est-ce qu'il est vraiment représentatif?
En tout cas, sur le moment, oui. Donc, on nous a clairement dit, allez de l'avant avec cette étude, proposez-nous un projet concret avec les tenants, les aboutissants. Et c'est clair que pour faire avancer un projet tel que celui-là, quel est le particulier qui serait prêt à prendre des risques de financer tout un dossier comme celui-là, sans garantie qu'il y ait un aboutissement avec la complexité des dossiers d'un tel projet, hein, je vous rappelle que c'est un projet quand même bicantonal, hein, donc, qui est là pour répondre à une stratégie qui est fédérale. Et ce temps qu'on prend, ces investissements, c'est aussi pour tenir compte de toutes les remarques qu'on nous a faites, hein, qu'on soit opposant ou non, toutes ces consultations qui ont été faites. Je pense qu'on a réuni un maximum d'éléments pour que ce projet puisse aboutir.
Alors, les retombées financières, les impacts, on en parlera tout à l'heure. Tout près de chez vous, tout près de chez nous, le parc éolien de Montcrozin, Mont-Soleil, hein, 16 éoliennes qui sont installées sur ce territoire. Est-ce que finalement, les gens, depuis le temps, ne se sont pas accommodés à ce nouveau paysage? Votre avis, Didier Cuche?
Alors, oui, un parc comme celui du Montcrozin, il est maintenant bien établi, on l'accepte. Mais il faut savoir que, si on extrapole, il y en a 6 autres qui sont prévus dans le Jura bernois, il y en a 5 dans le Jura, il y en a 5 sur Neuchâtel, sans parler ceux du canton de Vaud. Toute la Suisse alémanique n'en veut pas, donc on va se retrouver avec des parcs ici, autour de nous, pour récupérer toute l'énergie qui ne veut pas être produite par des autres cantons.
Oui, Marc-Jean-Marie, on peut le dire, hein, si le parc éolien des Quatre Bornes se réalise, les crêtes de la région accueilleront plus de la moitié des éoliennes actives en Suisse. Est-ce que finalement la région, est-ce que c'est à la région de supporter tout ça pour le reste du pays?
Alors, tout, c'est pas encore dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, mais qui nous dit aujourd'hui que tous ces projets vont aboutir? Ce que je peux dire, moi, c'est que le parc éolien de Montcrozin, qu'il soit éolien ou photovoltaïque, a été bien accepté, malgré qu'on n'ait pas mis en place ce parc avec les mêmes contraintes que le projet des Quatre Bornes. Mais il a un avantage, ce parc, c'est qu'il contribue pleinement à rendre visible la production d'électricité, et c'est ça qui va renforcer la conscience du public qu'on doit changer des choses pour lutter contre le réchauffement climatique. J'aimerais dire aussi que toutes les études qui ont été faites ont obéi à des très hautes exigences. C'est vraiment du Swiss made, hein, de l'horlogerie. Et puis, finalement, on aboutit à des mesures nombreuses, exemplaires, et certainement uniques dans un tel projet éolien. Si je parle de paysage, ben on enterre 6,5 km de ligne avec un potentiel de 5,5 km encore de ligne électrique. Au niveau de la faune, on arrive aux mêmes conclusions que celles qui ont été faites dans les Grisons à Aldenstein par rapport aux oiseaux migrateurs et aux oiseaux endogènes. Donc les mesures proposées, elles sont conséquentes, notamment aussi dans l'écosystème, la biodiversité, quoi. Voilà, puis ce parc a fait aussi qu'il y ait un développement du tourisme doux qui s'est fait pour découvrir une nature qui est marquée avec respect, il faut le dire, par l'empreinte de l'homme. La Terre a toujours été marquée par l'empreinte de l'homme, mais là, je trouve qu'on est très respectueux. On va pouvoir faire aussi découvrir tous les produits du terroir, la diversité des activités des loisirs de la région, tout ça bien contenu dans un tourisme doux.
Je me permets juste de faire peut-être réagir Didier Cuche à ces aspects, peut-être aussi touristiques. Hein. On sait que les gens sur ce projet des Quatre Bornes, cet attrait touristique, finalement, ils ne le recherchent absolument pas.
Ils ne le recherchent absolument pas, et c'est peut-être un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Maintenant, je me permets de revenir sur par rapport à la réflexion de M. Jean Méret par rapport à l'enterrement des lignes. On enterre des lignes, mais il faut savoir que quand on change des éoliennes comme les 150 mètres qui ont été changés par des 180 mètres à Montcrozin, on enterre simplement le socle en béton, on reconstruit un nouveau socle en béton à côté. Parlons un petit peu écologie, puisqu'il semblerait qu'à 90% les éoliennes sont recyclables. Première question, ben le socle, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enterre. Deuxième question, les pales d'éoliennes. Elles sont découpées, elles sont transportées ailleurs, elles sont enterrées. C'est des images qu'on voit déjà. Et le recyclage pour faire des abribus, je pense qu'on n'aura pas assez de place pour faire des abribus avec toutes ces pales d'éoliennes qui sont découpées.
On va peut-être passer maintenant aux retombées économiques. Hein. Marc-Jean Méret, vous l'expliquiez, les défenseurs du projet le clament. D'ailleurs, les collectivités publiques seront gagnantes. Qu'est-ce qu'il en est concrètement?
Il y a un point qu'il faut avoir vraiment conscience aujourd'hui, c'est que les citoyens et les collectivités publiques doivent absolument garder la main sur ce développement de production des énergies renouvelables. Je crois qu'opposant ou pas, on est tous d'accord là-dessus. Les produits d'exploitation de cette énergie, elle va profiter à la gestion des ménages communaux, que ce soit des communes de Sonvier ou d'Aldureux, qui doivent en tout temps, elles, pouvoir assumer leurs tâches, fournir de l'eau, assumer l'entretien des routes, l'élimination des déchets, etc. Il y a des gains aussi pour le canton, il ne faut pas l'oublier non plus, les entreprises régionales, et puis il y aura la création de quelques emplois, il n'y en aura pas des dizaines, mais en tout cas 5 ou 6. Et puis, c'est aussi pour les citoyens, qu'ils soient adultes et enfants, on a fait un truc vraiment unique en Suisse, on a pensé à un financement participatif, donc voilà, je pense que les gains, ils sont là. Il y a les bénéfices aussi au niveau des communes, on sera des producteurs d'énergie verte, hein, donc c'est notre part dans la mise en place de la stratégie énergétique, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, cette histoire de confédération, enfin 2050, ce qu'on veut mettre en place. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi les régions devront trouver des solutions pour faire leur quota de part.
On reparlera de cette stratégie énergétique de la Confédération. Didier Cuche, et on parle de 250 000 francs de recettes à répartir entre Sonvilliers et Val-de-Rue pendant la durée de vie du parc. On parle de ses avantages pour la collectivité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, aucun chiffre n'ont été avancé à part ces 180 000 francs. Il faut savoir que les retombées de ces 180 000 francs reposent sur des prévisions de vent largement exagérées, en plus sur un modèle d'éolienne qui n'est même plus sur le catalogue du fabricant Siemens. Le parc va coûter 80 millions. Il va rapporter, tiré de la poche du consommateur payeur, 225 millions en bénéfices sur 20 ans. Et finalement, aucun chiffre ne s'est avancé. C'est des balbutiements de choses, de retombées sur une commune.
Il y a un manque de concret, Marc Jean-Méret, sur ces retombées.
J'aimerais juste rebondir. Clairement, aujourd'hui, les éoliennes, elles ne sont pas choisies. On attendra le dernier moment pour choisir l'éolienne. Et voilà, je voulais aussi rebondir sur la réversibilité du projet. Ces socles en béton, c'est clair qu'ils vont rester au fond, mais c'est de la matière inerte. On voit aujourd'hui où ils ont remplacé ces socles de béton. Clairement, ben, les vaches, elles pèsent tranquillement et puis c'est de la bonne herbe, quoi.
Non, là, je vous contre parce qu'il y a des images. On peut s'en rendre compte par soi-même. L'herbe, elle n'a pas du tout la même densité. Elle n'a pas du tout la même couleur. Il y a 50 cm de terre par-dessus. Et c'est inévitable que cette matière inerte dessous freine le développement de l'herbe et de la biodiversité qu'il y a dans la terre.
Alors il y a des visions différentes ici, messieurs, on doit un petit peu avancer dans le débat. On va peut-être juste parler d'électricité. Il y a un débat, un argument totalement contradictoire qui est avancé d'une part et d'autre à propos de l'électricité. Hein. Du côté des partisans, on parle de l'autosuffisance potentielle pour les communes de Sonvilliers et de Val-de-Rue. De l'autre, on parle d'une électricité qui ne profitera pas à Sonvilliers. Alors où est la vérité là au milieu, Marc Jean-Méret?
Alors, clairement, la production du parc des 4 bornes, elle est équivalente à 80% hein, de l'autosuffisance. On parle de quasi-autosuffisance, mais si on prend les communes séparées l'une de l'autre, on serait à l'autonomie complète, si on prenait une commune toute simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'électricité produite, peu importe, elle passe dans et par un réseau avant d'arriver dans nos prises. L'électricité issue du renouvelable, elle ne dispose pas d'un réseau spécifique à elle. C'est donc, on arrive à une question purement technique, c'est de se poser la question sur le point d'injection, où il sera. Ce lieu, il a été réfléchi, il a été discuté. Donc, l'aménagement donc, du circuit, c'est du point d'injection, c'est ce qu'on appelle la production, la distribution. Et il fallait le considérer dans le projet en termes de technique et coût. Donc, les 60 MW des 4 bornes, ils ne pouvaient techniquement pas être ajoutés aux 63 MW de Mont-Soleil sur le même point d'injection. Ça aurait engendré un long projet de rechanger la section des câbles conducteurs de toute la ligne haute tension jusqu'à Bienne. C'est très coûteux, puis ça aurait été mis aux frais des contribuables payés par les taxes de transport. Voilà ce que je peux dire.
Peut-être juste, Didier Cuche, alors sur ce point de l'électricité et de sa disponibilité.
Il faut savoir que le producteur qui produit ses kilowatts est responsable de revendre ses kilowatts. Et il va les revendre dans son propre réseau. Donc le groupé va les revendre dans son propre réseau. La goule n'en verra pas la couleur et son billet non plus. Des projets ont été faits par rapport à une ligne qui pourrait redescendre depuis les Savanières sur Saint-Imier. Mais évidemment, avec les concurrences des grands groupes, c'était inévitable que ça parte dans l'autre sens. je vous laisse continuer.
Oui, je me permets de passer peut-être à une dernière question parce que l'horloge tourne. On parlait du potentiel de l'énergie éolienne. On sait que la stratégie énergétique de la Confédération vise 7% des besoins d'électricité couverts par l'éolien à l'horizon 2050. On est à moins de 0,2% en ce moment. Est-ce que finalement l'éolien a le potentiel nécessaire, Didier Cuche?
Alors non, l'éolien n'a pas le potentiel nécessaire. Les calculs sont vite faits. On parle en pour 1000 en ce moment. Donc si on extrapole combien il faudrait d'éoliennes pour arriver à un chiffre qui soit raisonnable, on aurait des champs d'éoliennes simplement partout. On en aurait à peu près tous les 300-400 mètres sur cette chaîne. Je reviens peut-être juste...
Très brièvement, s'il vous plaît.
L'élément de l'autosuffisance, c'est simplement en vue des votations pour essayer de faire comprendre que, ou croire aux gens qu'on va produire de l'énergie là et qu'il va être consommé là. Et ça, c'est simplement, c'est une question, est-ce que ce n'est pas simplement pour influencer la votation du 27 septembre ?
Sur la question du potentiel éolien, Marc-Jean Mérin.
C'est clairement une interprétation. Hein, donc, mais moi, ce que je devais dire, c'est qu'on doit faire face au mix énergétique. Le mix énergétique, c'est 100% du renouvelable. Il y a 60% qui restera d'origine hydraulique. Nos barrages, c'est vraiment des piles géantes. Par contre, l'enjeu, il est vraiment dans le 40% restant qui doit être aménagé entre le photovoltaïque, la biomasse, la géothermie et éolien. L'enjeu, il réside vraiment dans cette organisation des 40% sur le territoire. À Sonville, on n'aurait jamais pu avoir une centrale nucléaire, faut être clair non plus. Et c'est là que chaque région doit réfléchir sur la nécessité de comment on va faire, et notamment ça va nécessiter des plans directeurs coordonnés entre les communes, le canton, la Confédération, et c'est cette dernière que j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus présente sur ces tels projets.
Très bien, messieurs. Écoutez, on va conclure là-dessus. Beaucoup d'arguments, des visions opposées. Au final, ce sont les citoyens de Sonvilliers qui trancheront le 27 septembre. Didier Cuche, membre de l'association Sauver l'Échelette, qui s'oppose au parc éolien des Quatre Bornes. Marc-Jean Méret, président du comité pour l'énergie éolienne. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous.
Merci à vous.
Et les résultats des votations du 27 septembre seront bien sûr à découvrir en direct sur RJB.